comprends plus rien.
Que vous emporterai-je?
Bien ça. Que je vois.
Montre-moi tes mains.
Les voilà.
Les autres.
Les autres.
Ouais.
Les voilà.
N'as-tu rien mis ici, dedans?
Voyez-vous-même.
Ces grandes hautes choses sont propres à devenir les receleurs des choses qu'on dérobe. Hein. Et je voudrais qu'on en eût fait pendre quelqu'un.
Ah, qu'un homme comme cela mériterait bien ce qu'il craint et que j'aurais de joie à le voler.
Eh?
Quoi?
Qu'est-ce que tu parles de voler?
Je dis que vous fouillez bien partout pour voir si je vous ai volé.
C'est ce que je veux faire.
La peste soit de l'avarice et des avaricieux.
Comment? Que dis-tu?
Ce que je dis.
Oui, ce que tu dis d'avarice et d'avaricieux.
Je dis que la peste soit de l'avarice et des avaricieux.
Et de qui veux-tu parler?
Des avaricieux.
Oui, mais qui sont-ils, ces avaricieux?
Des vilains et des ladres.
Voilà, mais qui est-ce que tu entends par là?
De quoi vous mettez-vous en peine?
Je me mets en peine de ce qu'ils font.
Est-ce que vous croyez que je veux parler de vous?
Je crois ce que je crois, mais je veux que tu me dises à qui tu parles quand tu dis cela.
Je parle à mon bonnet.
Et moi, je pourrais bien parler à ta barrette.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Harpagon est un chef d'entreprise dont les affaires marchent très bien. Dans l'entrepôt où il convoque enfants, fournisseurs et domestiques, des marchandises s'entassent jusqu'au plafond. Un écran vidéo surveille l'accès du trésor et chacun file doux, car le patron a la gâchette facile. Mais, contrairement à une théorie en vogue, la richesse de ce premier de cordée ne ruisselle sur personne. Harpagon amasse son pognon pour la seule jouissance de la possession, pour le frisson de la domination sur les autres, pour l'accomplissement de son bon plaisir. Et au terme de sa névrose mortifère, il préférera s'enterrer avec son magot plutôt que vivre en le partageant. Créé par Ludovic Lagarde en 2014 à la Comédie de Reims qu'il dirige, cet avare a depuis tourné partout en France, séduisant des spectateurs de tout âge. Ayant simplement coupé la dernière scène de réconciliation générale, finale terriblement artificielle mais obligée pour ne pas heurter le public de l'époque, le metteur en scène rend à Molière toute sa noirceur qui n'empêche pas un rire terrible. C'est Laurent Poitrenaud, inégalable comédien dont le corps exprime les moindres mouvements de l'âme, qui incarne cet homme jamais rassasié de posséder. Lui qui d'ordinaire porte à la scène des textes contemporains, il s'y est totalement retrouvé. Contemporain, dites-vous. Bonsoir Laurent Poitrenaud.
Bonsoir.
Alors il paraît que lorsque Ludovic Lagarde vous a demandé si vous voulez bien interpréter Harpagon dans son avare en 2014, vous avez un peu fait la fine bouche. Évidemment, on vous connaît plutôt dans les textes contemporains, qu'Olivier Cadio bien sûr, récemment avec Arthur Noziciel dans une adaptation de Yann Karski. Mais cet avare, finalement, qu'est-ce qui vous a séduit? Est-ce que c'est le texte en lui-même d'abord, ou est-ce que parce que Ludovic Lagarde vous avait dit comment il compte-t-elle monter?
Ben, je sais que Ludovic cherchait depuis longtemps un texte classique pour ouvrir la saison à l'époque, il y a presque 4 ans. Et c'est vrai que je me souviendrai toujours du silence qui s'est, que j'ai eu au téléphone dans ce qui m'a dit, ça y est, j'ai trouvé, c'est l'avare. Je sais pas ce qui s'est passé. Parce que j'en avais une vision totalement erronée, c'est-à-dire comme beaucoup d'a priori qu'on a sur les pièces, qu'on croit les avoir lues, puis en fait on les a pas lues.
À l'école, ça nous change le regard.
Il y a eu l'école, et puis je pense qu'il y avait le film aussi qui m'avait un peu traumatisé avec Louis de Funès, qui Dieu sait que c'est un acteur que j'ai beaucoup aimé, qui m'a inspiré quand j'étais jeune, mais ce film-là m'avait un peu traumatisé. Et je crois que c'est ce film-là qui m'est arrivé tout de suite. Et je dis, mais pourquoi? Il m'a dit, non, mais lis-la bien. Et voilà, il avait raison. Il faut toujours relire bien les textes. Alors, ça va être un peu bizarre de dire ça, mais quand je l'ai relu, je dis, ah oui, mais c'est bien écrit. Alors, sens où j'en avais une vision, je crois, évidemment, pour moi, Molière, le côté noble de Molière, c'était le misanthrope, c'était Tartuffe, c'était Don Juan. Mais j'avais souvenir de l'avare comme une sorte de pochade, enfin, un peu de farce. Et en fait, non, la langue est très belle, la prose est c'est en prose, mais en même temps, il y a un reste d'alexandrin dedans, qui est magnifique. Et surtout, l'écriture est à l'os. Tout ce qui est dit est vraiment dit à l'essentiel. Donc, c'était très beau, parce que je suis assez sensible à l'écriture, grâce à mes co-religionnaires comme Olivier Cadio, par exemple, qui m'ont affûté ce regard-là. Et puis après, surtout, c'est que j'ai découvert, bien sûr, il y a la drôlerie de la pièce. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a travaillé merveilleusement et que même les soirs, on n'est pas bon, on n'est pas là, on est, voilà, il y a un monsieur qui a bien travaillé qui s'appelle Molière et les gens rient quand même. Mais surtout, c'était la noirceur, c'est-à-dire le rapport du père à ses enfants, de ce rapport à l'argent qui rend tout le monde fou, parce que lui, le premier, mais en même temps, par effet de capillarité, tout le monde est dans la même folie. Et donc, je me suis dit, ah ouais, là, ça devient... Ah oui, bah, oui, bien joué, Ludovic.
Oui, alors c'est vrai que c'est un peu une facilité. Molière, la modernité de Molière, qui parle de choses contemporaines. Alors, vous dites la langue, effectivement, quand on entend ce texte dans cette mise en scène contemporaine, on se rend compte à quel point c'est une pièce d'une méchanceté plus encore que toutes les autres. Parce que, comme vous le dites, Laurent Poitrenaud, il n'y a pas Carpagon qui est changé par cette passion de l'or, parce que Jouvet appelait la maladie de l'argent. Mmh. Autour de lui, au fond, on croit qu'il y a des gens sympathiques, mais personne n'est indemne.
Mais non, personne n'est indemne parce que tout le monde est assoiffé de ça. Et du manque, parce qu'en fait, c'est ça qui intéressait Ludovic dans sa vision, c'était en fait... comment la rétention de l'argent, parce que c'est bien ça le problème, c'est qu'en fait, lui, il retient l'argent, comment ça rend fou les gens autour de lui. Et finalement, ça le renvoyait un peu à ce qu'on vit en ce moment. On sait qu'il y a énormément d'argent, il y en a partout. On le voit partout, on le voit à la télé, on entend des salaires de joueurs de foot. Donc cet argent est partout, et en même temps, personne l'a dans les poches, quasiment, à part le 1% ou les quelque peu. Et c'est ça qui rend les gens fous. C'est ça qui intéressait Ludovic dans la pièce, c'est comment, d'un seul coup, ça dénature tous les rapports. Ça dénature les rapports filiaux, les rapports d'amour. Tout est attaqué, tout est perverti.
Alors, on va écouter un extrait, on en écoutera d'autres tout au long de cette émission. C'est le moment où Harpagon parle à son intendant, Valère, qui est amoureux de sa fille en secret, qui justement parle du mariage de sa fille à un vieil homme qui va la prendre sans aucune condition.
Il s'engage à la prendre sans dot.
Sans dot ?
Ouais.
Ah ah ! Je ne dis plus rien. Voyez-vous, voilà une raison tout à fait convaincante. Il se faut rendre à cela.
C'est pour moi une épargne considérable.
Assurément, cela ne reçoit point de contradiction.
Il est vrai que votre fille vous peut représenter que le mariage est une plus grande affaire qu'on ne peut croire, qu'il y va d'être heureux ou malheureux toute sa vie, et qu'un engagement qui doit durer jusqu'à la mort ne se doit jamais faire qu'avec de grandes précautions.
Sans doute.
Vous avez raison. Voilà qui décide tout. Cela s'entend. Il y a des gens qui pourraient vous dire... quand à telles occasions, l'inclination d'une fille est une chose sans doute où l'on doit avoir de l'égard. Et que cette grande inégalité d'âge, d'humeur et de sentiment rend un mariage sujet à des accidents très facile.
Sans doute.
Ah, il n'y a pas de réplique à cela. On sait bien qui diantre peut aller la contre. Ce n'est pas qu'il n'y ait quantité de pères qui aimeraient mieux ménager la satisfaction de leur fille que l'argent qu'ils pourraient gagner. Qui ne les voudraient point sacrifier à l'intérêt. Et chercheraient, plus que toute autre chose, à mettre dans un mariage cette douce conformité qui sans cesse y maintient l'honneur, la tranquillité et la joie. Et que... sans dot.
Voilà, dans le rôle de Valère, c'est Alexandre Palu. Et en fait, ce qui nous rend cette pièce si proche de nos préoccupations actuelles, Laurent Poitrenaud, c'est au fond la façon de le dire, c'est tellement évident, il n'y a pas besoin de faire des effets. Il faut rendre cette obsession d'Harpagon tout à fait naturelle. Pour lui, il est, voilà, sans dot, c'est un argument... évident.
Un argument massu. Mais oui, c'est ça qui était intéressant. C'était, pour lui, il n'y a pas de folie. Après, les gens peuvent le lire fou, mais moi, je l'interprète comme tel. Mais par contre, ce qui était intéressant, c'était de creuser les obsessions. Par exemple, il y a quelque chose du corps qui m'est venu de quelque chose qui est dit par la flèche à Frosine. À un moment, on dit, mais où Frosine dit, ouais, je vais lui retirer un peu d'argent. Il dit, mais t'es folle, jamais tu t'auras de l'argent. C'est comme lui arracher les tripes, c'est lui arracher le cœur, quoi. Je dis, ah ouais, c'est à ce point-là. Et si on prenait l'image à ce point-là, c'est-à-dire que si on lui parle d'argent, de demander de l'argent, est-ce que le corps se se déliterait
oui,
pas.
Oui, vous êtes à ce moment-là, dès qu'on lui parle de ça, voilà, il est pris de tremblements.
C'est ça.
De...
D'où la folie vient par là, mais elle vient pas parce que quelque chose que j'impose. C'est par exemple, je dis, ah bah oui, tiens, voilà, on lui parle d'argent et c'est pas possible. Le corps réagit pour lui. Et ça, plus aussi le rapport, parce que c'est intéressant, sur sa violence à lui, que génère aussi cette folie. Alors, on peut le prendre du côté de la bastonnade, un peu guignol, hein, c'est-à-dire quand il est avec Maître Jacques. Et avec Ludovic, on se dit, mais est-ce que tous ces gens ont quand même peur de lui? C'est quand même un type qui fait peur, qui tyrannise. Il fallait bien qu'on l'incarne, cette peur. Il fallait bien que ça soit crédible, d'une certaine manière. Et donc, c'est vrai moi, j'ai choisi de dire, bah, Maître Jacques, ça ne sera pas juste une bastonnade, c'est qu'il va rigoler avec lui, il va rigoler avec lui pour savoir ce qu'il veut entendre, et puis une fois qu'il l'a entendu, bah, il lui prend la main, il lui plante un couteau. Et d'un coup, il y a quelque chose de glaçant, je sais, pour le public, mais je crois que c'est ce qui est réussi par Ludovic, c'est ce côté chaud-froid, où on maintient le cheval de la farce, mais en même temps, à côté, on lui a adossé le cheval de la violence, et que cette noirceur n'empêche pas le rire, au contraire.
Mais c'est ce qui est intéressant dans les mises en scène qu'on nous propose au fil du temps, c'est que nous, on est habitués à voir un petit harpagon en vieillard rabougri dont personne n'a vraiment peur et que tout le monde essaye de rouler, alors que là, au contraire, vous êtes jeune, c'est un harpagon, oui, encore, c'est un harpagon qui est en pleine possession de ses moyens physiques et qui, effectivement, on le voit au début avec un fusil, ensuite il plante un couteau, il est tout à fait capable de balancer des coups très violents. Donc, ça oblige le spectateur à l'entendre d'une manière telle qu'on aurait pu l'entendre, enfin, le voir écrit aujourd'hui, parce que ça réveille des... Alors là, vraiment, sur le plan politique, des interrogations sur ce culte de l'argent qui nous environne aujourd'hui.
Oui, qui est d'une grande violence. Alors, qui, des fois, est une violence plus symbolique, des fois, et masquée, mais que la violence existe. Là, elle est traduite physiquement. Et puis, c'est vrai que quand Ludovic me propose le rôle, il n'y avait aucune, ni de sa part, ni de la mienne, tout de suite, de dire, bon, bah, je vais jouer le rôle d'un vieillard, je vais le composer, ça n'avait pas d'intérêt. Et je pense que, de toute façon, la méchanceté, la noirceur, tient en forme. C'est-à-dire que je pense que les gens très, très méchants vivent très, très, très vieux. Voilà. Et on peut dire qu'il a presque 60 ans, et en même temps, ça peut tenir grâce à cette énergie de haine pure.
C'est un peu ce que nous disait Ludovic Lagarde. À ce même micro, c'était en 2014, comme le temps passe.
Ce qui m'a vraiment frappé en la lisant, c'est sa noirceur. Alors, souvent, Molière est noir. Hein. Mais c'est vrai que celle-ci en particulier, oui, sa noirceur m'a frappé. À la fois la noirceur du personnage, son enfermement dans son obsession, et puis aussi la violence des rapports. C'est vrai que le rapport, par exemple, entre le père et le fils sont d'une violence, d'une cruauté, d'une... Et alors, c'est vrai, alors c'est la première fois que je travaille ce grand répertoire français, c'est vrai que... Je l'ai vraiment lu et abordé comme une pièce moderne. Et c'est petit à petit, finalement, en travaillant, que le 17e remonte, ou que Molière revient, d'une certaine manière, dans son histoire, ou dans sa... Voilà. Et c'est assez curieux, d'ailleurs, comme expérience, parce que je l'ai vraiment abordé comme ça, avec des thématiques contemporaines, dans la langue, comme vous le dites, parce qu'on ne change pas une virgule. Et petit à petit, là, dans le travail, tout d'un coup... Mais j'ai pas fait de recherche historiologique, je me suis pas plongé dans le grand siècle, je me suis pas... j'ai voulu la traiter aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, finalement, là, maintenant, que le travail est presque terminé, je m'y replonge, j'ai lu Michelet ce week-end, tout d'un coup, en me disant, mais qu'est-ce qui se passait en 68 1600, bien sûr. Et là, je me dis, ah oui, c'est curieux quand même. Il y avait Colbert, alors ça serrait la vis. C'était une époque d'économie, comme par hasard, très grande. Et puis, tout d'un coup, je comprends des choses. Et voilà. Donc, mais j'ai vraiment voulu la travailler comme si je montais une pièce d'aujourd'hui.
Voilà, relire Michelet pour comprendre ce qui se passait à l'époque. Finalement, rien de nouveau sous le soleil, c'est toujours la même chose.
C'est toujours les mêmes premiers de cordée.
Oui. Alors, ce qui est aussi assez dérangeant, c'est que tous les personnages qu'on suppose sympathiques, le fils, la fille, le Valère, l'amoureux, qui est supposé quand même sauver la jeune fille de Harpagon, au fond, c'est un collabo immonde, quoi.
Ce qui est intéressant dans le personnage de Valère, et de comment l'ont construit Alexandre et Ludovic, c'est qu'il doit jouer masqué. D'ailleurs, je crois que la pièce, le terme exact, c'est la comédie des mensonges aussi, qui était une sorte de sous-titre. Donc en fait, tout le monde se ment en permanence. Et alors Valère, lui, dans une drôle de position, c'est qu'il doit endosser un masque. Mais non seulement il l'endosse, mais il est plus royaliste que le roi. Alors à la fois pour sauver sa peau, c'est vrai. Et c'est vrai que, mais en même temps, du coup, quand il, par exemple, il se met à frapper Maître Jacques, qui s'est moqué de lui, il y a comme une forme de décompensation. C'est-à-dire, cette violence qu'il est obligé de porter en lui, de supporter, finalement, il la décompense sur quelqu'un d'un socialement un peu plus bas que lui, et qui, je trouve, raconte quelque chose de ce qu'on vit en ce moment.
Ouais, oui, la violence sociale que chacun peut éprouver dans la rue, par exemple, entre les automobilistes ou dans les rapports dans les entreprises. On subit tellement de la part des supérieurs que, du coup, on se venge.
C'est-à-dire qu'on va pas se venger contre le supérieur, on va se venger contre celui qui est à peu près dans la même mouise que toi, quoi. Voilà.
Et puis, il y a un moment formidable aussi, c'est le moment où il faut bien négocier les faveurs sexuelles. Formidable Christelle Tual dans le rôle de Frosine en Mère Maquerelle.
C'est une fille qui vous apportera 12 000 livres de rente.
12 000 livres de rente ?
Oui ! Premièrement, elle est nourrie et élevée dans une grande épargne de bouche. C'est une fille accoutumée à vivre de salade, de lait, de fromage et de pommes. Et à laquelle, par conséquent, il ne faudra ni table bien servie, ni consommé exquis, ni orge mondée perpétuelle, ni les autres délicatesses qu'il faudrait pour une autre femme. Et cela ne va pas à si peu de choses qu'il demande bien tous les ans à 3000 francs pour le mois. De plus, elle n'est curieuse que d'une propreté fort simple et n'aime point les superbes habits, ni les riches bijoux, ni les meubles somptueux où donne ses pareils avec tant de chaleur. Et cet article-là vaut plus de 4000 livres par an. De plus, elle a une aversion horrible pour le jeu, ce qui n'est pas commun aux femmes d'aujourd'hui. Et Jean, c'est une de nos quartiers qui a perdu à 30 et 40, 20 000 francs cette année. Mais n'en prenons rien que le quart. 4 000 francs au jeu par an. Et 5 000 francs en habits et bijoux, cela fait 9 000 livres. Et 1000 écus que nous mettons pour la nourriture... Ne voilà-t-il pas, par année, vos 12 000 francs bien comptés?
Ah ouais, ça n'est pas mal, hein. Et ce compte-là n'est rien de réel.
Pardonnez-moi, n'est-ce pas quelque chose de réel que de vous apporter en mariage une grande sobriété, l'héritage d'un grand amour de simplicité de parure et l'acquisition d'un grand fond de haine pour le jeu?
C'est une raillerie qu'elle veut vouloir constituer son dot des dépenses qu'elle ne fera point. Je n'irai pas donner quittance de ce que je ne reçois pas. Et il faut bien que je touche quelque chose.
Mon Dieu, mais vous toucherez assez.
Voilà, tout est dans la chute. Laurent Boitrenaud, ce n'est pas trop désagréable de ne pas chercher à sauver un peu son personnage, parce qu'on a en mémoire de très bons acteurs, que ce soit Podalydès ou Weber, pour les plus récents. Il y a toujours un moment où, sans doute, un acteur a envie de rendre son personnage au moins compréhensible par les spectateurs, un peu attendrissant. Tandis que là, alors, il n'y a rien à sauver.
Non, mais c'est drôle, parce qu'on me l'a lors de rencontres publiques, c'est arrivé une ou deux fois qu'on me dise, voilà, moi votre Harpagon, il m'a pas touché, j'ai pas trouvé son humanité. Mais moi, je me pose pas cette question-là, parce que je pense que c'est souvent les acteurs qui cherchent l'humanité de leur personnage. Mais quand ils cherchent l'humanité de leur personnage, c'est pas tant du personnage qu'ils cherchent, c'est pour se sauver eux-mêmes. C'est-à-dire dire, attendez, moi-même, acteur, derrière, je donne cette part d'humanité. Alors que je pense qu'une manière de sauver son personnage, alors que je pense qu'ils ont pas besoin d'être sauvés, hein, ils vivent très bien depuis des siècles sans nous, c'est que je pense que raconter l'humanité d'un personnage ou d'un être, c'est aussi aller dans sa noirceur. Et que c'est peut-être ça qui nous le rapproche, et peut-être qu'on n'a pas envie d'être rapproché de ça, mais en tout cas, moi, c'est vrai que j'ai jamais cherché, entre guillemets, à le sauver, parce que je crois que Molière, c'est pas son problème, et que ça doit pas être le problème d'un acteur, parce que souvent, encore une fois, je pense que c'est l'acteur qui veut se sauver surtout, c'est pas le personnage.
Stretched out alone, I need the whip of thunder. Satan's dark moon. I'm not able, I'm just Cain. Open up the heavens, make it rain.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Ne vous offensez pas, ma belle, si je viens à vous avec des lunettes. Je sais que vos appâts frappent assez les yeux, sont assez visibles d'eux-mêmes, et qu'il n'est pas besoin de lunettes pour les apercevoir. Mais enfin, c'est avec des lunettes qu'on observe les astres, et je maintiens et garantis que vous êtes un astre, mais un astre, le plus bel astre qui soit dans le pays des astres. Frosine, elle ne répond mot et ne témoigne, ce me semble, aucune joie de me voir.
C'est qu'elle est encore toute surprise. Et puis, les filles ont toujours honte à témoigner d'abord ce qu'elles ont dans l'âme.
Tu as raison.
Laurent Poitrenaud, le petit compliment d'Harpagon à sa promise que vous avez eu envie de faire en slam, c'est vous qui avez apporté cette petite innovation.
Oui, on a réfléchi. Il y avait un jeune homme qui faisait partie des figurants, qui faisait du slam, et puis on discutait. Et puis en fait, c'était surtout la question, comment on peut se vieillir, quoi. Et en fait, il n'y a rien de pire que pour se vieillir que de faire des trucs de jeune, quoi. C'est-à-dire faire du slam, du rap, quand t'as 50, 60, et il y a rien. Voilà, et c'est une manière de marquer l'âge aussi, mais pas forcément dans le corps, mais juste en termes de signes.
Ouais, mais dans le corps, Dieu sait si le vôtre, il est présent dans tous vos spectacles. C'est une manière très spéciale qui vous fait reconnaître instantanément. C'est impliquer son corps. Et alors, j'ai vu que vous disiez qu'en fait, jusqu'au colonel des Zouaves d'Olivier Cadieux, c'est-à-dire en 97, ça nous rajeunit tout ça, que vous n'aviez pas de corps et que c'est un travail avec une chorégraphe, Odile Duboc, qui tout d'un coup vous a donné un corps.
Je suis très heureux qu'on puisse en parler. Bah oui, parce que quand je dis que j'avais pas de corps, c'est que j'avais pas de conscience de mon corps. J'avais un truc qui suivait, qui s'appelle le corps, mais ça passait par la tête, l'élocution, mais je savais pas quoi faire de ça, donc ça suivait comme ça pouvait. En fait, ce qui est beau, c'est qu'avec Odile, elle a jamais voulu me transformer en danseur. Ce qui est le problème des fois dans des spectacles, quand des chorégraphes interviennent sur des spectacles, où les metteurs en scène veulent des chorégraphes, mais où ils essayent de transformer en quelques semaines des acteurs en danseurs, mais ça peut pas. C'est un travail de longue haleine, quand même.
Les Américains savent faire ça, mais les Français ont du mal.
Mais parce que les Américains, dans leur travail d'acteur, ils ont cette exigence de cours de danse, de rapport à la danse, depuis qu'ils sont tout petits. Nous, en France, on ne l'a pas, ça. Alors que Odile, ce qui a été beau, c'est qu'elle s'est dit, bon, moi, quels sont les outils que j'ai comme chorégraphe, comme danseuse, qui vont pouvoir aider Laurent, comédien, à aller plus loin. Et c'est ça. Et donc, elle m'a donné ces outils-là, qui ont à voir avec peut-être ne pas être tout le temps dans la dépense, d'être dans le micro-mouvement, dans la dissociation du mouvement, dans le suspens, dans un rapport à l'espace, d'avoir conscience dans quel espace on est. Et tout ça, petit à petit, ça a développé chez moi une conscience et très, très aiguë, qui fait que on peut me renvoyer maintenant de dire, mais alors, vous avez fait de la danse? Non, je n'ai pas fait de la danse. Mais par contre, elle m'a développé cette conscience-là. Des fois, je voudrais pendant 24 heures, revenir en arrière et dire, tiens, j'aurais pas rencontré Odile, quel acteur je serais aujourd'hui? Et vraiment, honnêtement, je sais pas, parce que je pense que je serais vraiment pas le même acteur.
Alors, est-ce que ça veut dire, Laurent Poitrenaud, parce que vous enseignez un peu, enfin, vous participez à des classes d'acteurs, vous êtes maintenant au TNB, depuis qu'Arthur Noziciel a pris la direction, il vous a demandé de venir vous occuper aussi un peu des élèves. Alors, est-ce que justement, ce que vous avez, ce plus que vous avez grâce à Odile Duboc et puis à votre pratique depuis, est-ce que vous en faites profiter? Est-ce que vous pensez que dans la formation des élèves, le théâtre public devrait justement leur donner cet outil supplémentaire?
Moi, en tout cas, moi, je ne suis pas un metteur en scène quand j'arrive avec des élèves. Je n'arrive pas avec un univers, je n'arrive pas avec une esthétique. J'arrive avec ce que je suis comme acteur qui se fond dans plusieurs esthétiques. Par contre, je me dis, qu'est-ce qui a été important pour moi? Et c'est vrai que la rencontre avec Odile et Olivier Cadieux, on peut dire, à travers le texte, ça a été d'un seul coup un rapport au texte extrêmement précis qui, comme par hasard, s'est rencontré aussi avec Odile Duboc, qui m'a développé cette conscience du corps. Et la conscience du corps m'a développé la conscience du texte. En fait, c'est les deux. Et en fait, quand je travaille avec des élèves, j'essaye de leur donner ces outils-là pour qu'ils les aient plus tôt que moi. Moi, je les ai eus vers 30 ans. Je me dis, si c'est des jeunes gens peuvent les avoir dès 20, 25 ans, c'est bien, ça va leur faire gagner du temps, parce que je pense que c'est ça qui manque des fois sur les plateaux. C'est ce texte qui, d'un seul coup, peut descendre dans le corps, ou le corps rentrer dans le texte. Je sais pas, ça peut aller dans les deux sens. Mais qui, d'un seul coup, fait que ça s'incarne vraiment, et que ça reste pas seulement intellectuel.
Alors, la France est un des rares pays à avoir justement cette politique culturelle, ce théâtre public qui marche bien, encore,
oui,
encore.
Donc, défendons-le.
Vous, on ne vous voit pas dans le théâtre privé, vous êtes à fond dans ce théâtre public, c'est aussi un engagement très personnel, très,
très fort. Ça l'est devenu, je le revendique, je me revendique comme acteur du théâtre public. Je n'ai absolument rien contre le théâtre privé, c'est une histoire aussi merveilleuse, le théâtre privé, mais quand je vois qu'en ce moment, on essaie de nous expliquer que tout ça est la même chose, hein, que théâtre public, théâtre privé, finalement, c'est quoi? C'est des spectacles, c'est des acteurs qui jouent dans des spectacles, c'est des metteurs en scène. Je veux dire, oui et non. Oui, c'est des spectacles, mais si on prend le théâtre public, par exemple, moi, je ne suis pas qu'un acteur sur le plateau. Je suis aussi un acteur qui va intervenir dans des lycées pour parler des spectacles, qui fait des ateliers avec des amateurs, qui fait essayer de faire venir par toute forme de travail avec les relations publiques de tous ces théâtres, à faire venir des gens qui ne vont pas au théâtre. Je veux dire, il y a tout un travail autour des spectacles que ne fait pas le théâtre privé. Je leur reproche pas, c'est pas leur rôle et puis c'est pas leur mission. Parce que moi, le danger que j'entends derrière ça, c'est que si à un moment tout se ressemble, alors pourquoi mettre tant d'argent dans le théâtre public, puisque le théâtre privé, regardez, ça marche. Faisons que du privé. Mais à ce moment-là, ça veut dire que c'est toutes les missions, c'est des années de décentralisation mis au panier, d'une histoire à laquelle on tourne le dos. Et moi, j'aime bien la transmission, j'aime bien savoir d'où je viens et je suis fier de ça. Et donc, encore une fois, je pense que les deux théâtres peuvent coexister. Parce que souvent, on cite Laurent Terzieff, qui avait dit aux Molières, justement, une année, le théâtre, c'est pas ça ou ça, c'est ça et ça. Et j'ai envie de dire, j'aime bien reprendre cette phrase-là, parce que je dis, oui, c'est vrai, il a raison, c'est ça et ça. Mais moi, quand j'entends ça et ça, j'entends une distinction. J'entends pas quelque chose qui réunit, pas qui oppose, mais qui fait que ce sont deux réalités profondément différentes et qu'on n'y fait pas les mêmes choses. Et que comme acteur, moi, les auteurs comme Olivier Cadiot, Pascal Rambert, Jean-Luc Lagarce, que j'ai pu côtoyer, je n'aurais pas pu les rencontrer dans le théâtre privé. Parce que le théâtre privé n'aurait pas pu les soutenir. Comme Pommerat, par exemple, a été soutenu pendant des années par le théâtre public et qu'il a pu advenir. C'est grâce, c'est parce que, parce que le théâtre public a cette mission-là. Et d'ailleurs, on peut balayer devant notre porte. Des fois, le théâtre public ne fait pas assez cette mission-là. Mais et moi, je sais que l'acteur que je suis, je n'aurais pas pu être l'acteur que je suis ailleurs que dans le théâtre public. Voilà.
En plus, c'est en ce moment l'Avare au théâtre public, puisque c'est à l'Odéon Théâtre de l'Europe, c'est jusqu'au 30 juin. Encore un petit coup d'harpagon pour le plaisir.
Mon esprit est troublé. J'ignore qui je suis et ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi, et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation. Ma joie. Tout est fini pour moi. Je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. C'est en effet. Je n'en puis plus. Je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré.
Le célèbre monologue d'Harpagon, Laurent Poitrenaud, enterré, c'est vraiment le mot, parce que, avec cette idée qu'a eue Ludovic Lagarde de couper cette dernière scène, qui exaspère tout le monde dans toutes les pièces de Molière, à la fin, tout le monde se réconcilie, le happy end est obligé, forcément, il fallait pas faire de la peine au roi et aux bailleurs de fonds, mais avec cette scène qui manque, ce choix terrible, la vie ou la mort, la vie avec des gens autour de soi, la mort avec son argent, c'est ça qu'il a choisi. C'est une fin formidable, au fond. C'est la vraie fin.
Il avait vraiment l'intuition très tôt, Ludovic, de terminer. Alors moi, j'avais milité pour... le texte, il faut aller au bout. Puis alors, Ludovic m'a fait plaisir. Une fois, on a fait une séance de travail sur cette queue de comète de la pièce. Bon, et c'est vrai qu'on s'est dit, non, c'est pas possible, c'est injouable. Enfin, c'est autre chose, c'est une convention, ça n'a pas de sens. Et puis, c'est vrai qu'une des dernières phrases d'Harpagon, c'est quand même quand il dit à sa fille, j'aurais préféré que tu meures plutôt que l'autre te sauve et de faire ce qu'il a fait, quoi. Et quand même, d'un père qui dit à sa fille, j'aurais préféré que tu sois morte, comment on peut aller au-delà, quoi. Enfin, c'est, voilà, on a touché un peu les limites et il trouvait que c'était dommage de perdre, en fait, cet écho-là, si, en rentrant dans cette fin de pièce. Et puis, du coup, je trouve que ça crée une ouverture plus grande, plus, je sais pas, d'un point de vue sensible, philosophique, tout ça ouvre les perspectives, en fait. Ça les referme pas, ça les ouvre, en fait.
Mais cet avare qui tourne depuis 4 ans, j'imagine que vous avez dû avoir pas mal de public scolaire, avec des professeurs. Ouais. Justement, alors, cette fin un peu iconoclaste, ça satisfait quand même.
Bah, je crois qu'en fait, alors peut-être il y a les puristes qui nous disent ah là là, c'est pas voilà, c'est pas bien, Molière, c'est pas bien, machin. Mais je crois surtout qu'ils ont le retour de leurs élèves parce que ça, on a eu pas mal de professeurs qui nous ont écrit. D'ailleurs, c'était super. Disaient bah merci. Là, récemment, on a rejoué à Reims et il y a un professeur qui nous dit merci. Écoutez, moi je vous dis juste merci pour le spectacle. Puis j'étais avec une élève qui est en échec scolaire, avec qui on a beaucoup de difficultés. En sortant du spectacle, elle m'a dit merci, c'était absolument formidable, c'était génial. Et elle me dit bah voilà, rien pour ça, je vous remercie. Et je me dis donc ça veut dire qu'il y a quelque chose pour cette jeunesse là qui parle, mais parce que je crois aussi que le travail du Ludovic, souvent on nous dit, et c'est le plus beau compliment qu'on puisse nous dire, mais vous avez réécrit là, hein, les choses, parce que là c'est tellement contemporain. Non, on n'a vraiment rien écrit. Par contre, le travail du Ludovic a été de nous le faire mâcher pour que ça soit ici et maintenant. On voit bien que la jeunesse répond présent et qu'ils entendent Molière, c'est l'essentiel.
C'est l'Avare, c'est jusqu'au 30 juin au théâtre de l'Odéon. Il va tourner encore cet Avare?
On ne sait pas, on est déjà à la 125e.
Bah, oui, mais s'il est demandé après tout.
Mais c'est assez beau d'entendre les extraits, parce que je pense que c'est des extraits qui datent d'il y a 4 ans de la création, et c'est incroyable. Comment le spectacle il s'est musclé, mais il s'est musclé par le public aussi, par cette rencontre de 130 représentations avec ce partenaire qui a été divers, qui a été même chinois, puisqu'on a été en Chine aussi le jouer. Donc, non, c'est incroyable, c'est une aventure exceptionnelle, avec la même équipe d'origine, ce qui est très rare.
Oui, oui, absolument. Et puis je voulais dire aussi qu'on vous voit en ce moment au cinéma avec un film très étonnant qui s'appelle Le ciel étoilé au-dessus de nos têtes d'Ilan Klipper, où vous êtes avec une bande d'acteurs absolument formidable. Vous avez pris plaisir à jouer ce rôle de cinglé, enfermé.
D'abord, Ilan m'a offert mon premier rôle principal au cinéma, donc je devrais toujours ça. Et puis c'était une belle aventure, on a tourné ça en 12 jours dans une économie absolument exsangue, mais avec une foi absolue, partagée par tous les acteurs. Et je dis souvent qu'on avait l'impression de retrouver un peu l'enfance de l'art, quoi. Ce plaisir qu'on a eu à... Voilà, comme moi j'ai démarré le théâtre avec cette même fougue, cette même joie, c'était incroyable.
Très bien, Laurent Poitrenaud, on vous quitte avec regret, mais je sais pas trop de regrets parce qu'on se verra sûrement à la rentrée, il y a des projets de théâtre à venir.
Oh, ça sera avec plaisir que je reviendrai, vous le savez.
Écoutez, alors voilà, le rendez-vous est pris. Merci à vous, Laurent.
Merci.
Votre nom, au revoir.
Au revoir.
C'est fini pour l'Humeur Vagabonde de cette semaine. Nous nous retrouverons, si vous le voulez bien, samedi prochain pour la dernière de la saison. En attendant de se retrouver en septembre, je recevrai l'écrivaine néerlandaise Marguerite de Moor. Mais bien sûr, restez à l'écoute, puisqu'après les infos de 20h, vous avez rendez-vous avec Babel sur scène. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter, bien entendu.